Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir pour notre conférence débat que nous avons intitulée Solidarité et coopération autour de la reconstruction de bibliothèques, avec l'objectif, dans le cadre de la destruction d'établissements, de voir quelles coopérations peuvent être mises en place, avec quel type de reconstruction, et avec l'idée d'analyser un petit peu les difficultés qu'on rencontre quand on veut établir une coopération avec une bibliothèque qui relève d'un autre modèle bibliothéconomique. Donc notre conférence va se dérouler en deux temps. Nous allons d'abord laisser la parole à nos trois intervenants pendant trois quarts d'heure, et ensuite on gardera environ trois quarts d'heure d'échange avec vous. Simplement pour présenter nos intervenants, juste dire que l'idée de cette conférence débat est venue parce que nous accueillons pendant quelques semaines dans nos murs à l'ENSIB des bibliothécaires haïtiens en formation. Du coup, c'est ce qui nous a donné l'idée de leur donner un peu la parole. Donc Anne-Marie Sirius, qui est ici, vient de la bibliothèque universitaire de Port-au-Prince en Haïti. Elle pourra nous présenter les attentes de son établissement et puis des résultats d'une expérience, les difficultés rencontrées. Béatrice Gaillard, à côté de moi, est responsable du département des collections à la bibliothèque universitaire de Lyon 1. Et racontera son expérience de partenariat avec une bibliothèque universitaire au Rwanda pour un don d'ouvrages scientifiques. Et enfin, Jérémy Lachal est le directeur général de l'ONG Bibliothèques sans frontières en France et présentera le rôle de son association pour mener à bien des opérations de solidarité avec d'autres bibliothèques et notamment avec les bibliothèques d'Haïti. Donc Jérémy, la parole est à vous.
Pardon. Bonjour, je suis donc Jérémy Lachal et je dirige maintenant depuis quelques années Bibliothèques sans frontières que nous avons cofondé avec Patrick Veil, qui est directeur de recherche au CNRS et historien. Vous avez peut-être déjà lu. Je ne vais pas parler ici beaucoup de Bibliothèques sans frontières parce que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est assez périlleux, je dirais, parce que effectivement reconstruire une bibliothèque, ça signifie que cette bibliothèque a été détruite. Elle a été détruite pour diverses raisons. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ici Lucien Polastron, qui a écrit une somme assez considérable sur les destructions de bibliothèques au fil de l'histoire, qui s'appelle Livre en feu, et qui donne un panorama comme ça des biblioclastes, comme il les appelle, et finalement des grandes catastrophes qui ont frappé les bibliothèques dans l'histoire. Alors, à la lecture du livre, on voit qu'il y a énormément d'exemples, depuis le sac d'Alexandrie, qui met un coup d'arrêt au fantasme d'une bibliothèque universelle et pléthorique, jusqu'au conflit en Afrique, en Angola, au Rwanda, en Irak aussi, en passant par les pillages, les autodafés, les dictateurs ennemis des livres et des intellectuels. Toute l'histoire regorge en fait d'exemples de bibliothèques qui sont détruites. Les bibliothèques et leurs contenus, les livres, sont évidemment fragiles et sont doublement exposés finalement à la colère des hommes et à celle de la terre, comme on va le voir dans l'exemple haïtien. Alors j'ai choisi ici de vous parler de deux situations qui sont très éloignées, d'abord géographiquement, contextuellement, mais qui ont le mérite d'être contemporaines et qui vont vous parler, évidemment Haïti et l'exemple tunisien. Alors le contexte est différent, l'histoire est différente, l'actualité est différente. Pourtant, dans ces deux pays, plusieurs dizaines de bibliothèques ont été détruites ou sérieusement endommagées. En Haïti en 2010, en 2011 pour la Tunisie. Alors, à Haïti, je vais pas revenir sur le contexte du séisme. J'imagine que vous en avez tous entendu parler et vous avez perçu le choc que cette catastrophe a constitué. Je vais faire un petit bilan tout à l'heure des bibliothèques, quelques exemples comme ça pour que vous ayez un petit peu des images de à quoi ça peut ressembler. La Tunisie, c'est plus récent, c'est la révolution. On parle aujourd'hui de 15 bibliothèques de lecture publique qui ont été brûlées, sans compter en fait les bibliothèques universitaires qui ont été et les fonds privés également qui ont été très sérieusement endommagés. Au total, en fait, plus de 50 bibliothèques seraient sérieusement touchées en Tunisie aujourd'hui. Alors au-delà des contextes très différents, finalement ces deux pays se rejoignent aujourd'hui dans une problématique commune qui est celle de reconstruire leurs bibliothèques. Alors s'arrêter à ce niveau-là en disant voilà, on a un point de comparaison, ça serait, je pense, beaucoup trop simple. En fait, Vous le savez certainement plus que moi, les bibliothèques sont des lieux éminemment politiques. C'est des lieux où on va classer, où on va transmettre le savoir, c'est un lieu où on va valoriser le patrimoine, c'est un véritable pont entre hier et demain, lieu également, je dirais, de la production du savoir et du discours. Reconstruire ces bibliothèques, c'est donc un acte politique et c'est se poser la question profonde de qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque et quel sens on veut lui donner à cette bibliothèque. En Haïti comme en Tunisie, finalement, ces reconstructions s'inscrivent dans le cadre d'une rupture historique profonde, une sorte de, je dirais, nouveau départ qui amène à repenser en profondeur l'organisation de la société dans laquelle ces bibliothèques s'inscrivent. Alors, si je peux reprendre une formulation marxiste, bien que ce ne soit pas mon obédience directe, je dirais que c'est quand même relativement intéressant de voir que ben, reconstruire, ça pose d'abord la question des infrastructures, mais en fait, on va voir qu'il s'agit bien plus de reconstruire les hyperstructures et justement tout ce qu'il y a à l'intérieur et autour et l'environnement de ces bibliothèques. Alors, si on prend un schéma classique de reconstruction, de destruction-reconstruction, on a quelques questions classiques qui se posent, je dirais, dans le cadre d'une construction de bibliothèque, à savoir qui, comment, pour qui et où, qui sont bon, toutes questions banales d'un programmiste. Mais dans un contexte de reconstruction, je pense qu'on a une réflexion plus aboutie qui doit être menée. Une question d'abord sur les causes, le pourquoi cette bibliothèque a été détruite, et comment faire pour y remédier dans le futur, pour éviter qu'elle soit détruite à nouveau. Une question de localisation, où, qui va se reposer d'une autre façon, savoir où reconstruire, pour s'adapter au contexte nouveau, par exemple des flux de population déplacés à Haïti qui peuvent poser la question de savoir si on reconstruit au même endroit. Et c'est une question qui a encore lieu, je crois, à Port-au-Prince, de savoir quelle va être la nouvelle géographie de la ville. Avec qui, c'est aussi une question importante, parce que je dirais que dans la logique de redéfinition de ces hyperstructures, il est possible que des postes clés changent de main. En Tunisie, c'est le cas. Il y a évidemment un gouvernement qui est bousculé, il y a des décideurs qui sont bousculés. Et forcément, on a abouti à une redéfinition des politiques culturelles ou des politiques du livre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très vite, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec du baratin intellectuel. Je voulais en fait vous montrer quelques images d'Haïti. Anne-Marie pourra peut-être en dire plus tout à l'heure. Moi, j'ai conduit une mission quelques semaines après le séisme à Port-au-Prince, à la demande de la Bibliothèque nationale pour apporter du matériel de première urgence, pour sauvegarder un certain nombre de collections patrimoniales et également des sites d'archives. Alors, Port-au-Prince, un mois après le séisme, c'était évidemment une situation extrêmement difficile, des images qui marquent, mais en même temps une vraie mobilisation des populations pour leur bibliothèque. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors là, vous voyez quelques images de Port-au-Prince, et on arrive très vite, en fait, à la bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit, qui est une des bibliothèques patrimoniales de référence à Port-au-Prince, qui abrite des fonds qui sont extrêmement anciens pour grand nombre d'entre eux. Il y a même des manuscrits qui remontent au 15e, 16e siècle, qui ont été apportés par des pères blancs à Haïti. Et on a dans cette bibliothèque vraiment des trésors. Alors, le bâtiment, bon, vous voyez que la pièce qui abrite les collections a tenu le coup, même si bon, les bouquins sont tombés. Le gros problème en fait qui se passait, c'est que le bâtiment a été extrêmement fragilisé et que la bibliothèque était au troisième étage. Donc les bibliothécaires et les personnes du séminaire, parce qu'on est dans le cadre d'un séminaire, se sont mobilisés et ont monté un échafaudage pour aller chercher les livres en fait, avec un système de poulies qui permettait de descendre les cartons de bouquins. Donc vous voyez un certain nombre de fonds patrimoniaux. Là vous avez un extrait moniteur général de la partie française de Saint-Domingue de 1792, une date relativement intéressante. Et en fait voilà, les bouquins ont été stockés dans l'église qui était attenante, qui a malheureusement perdu son toit, donc ils ont été bâchés un petit peu à la va-vite. Alors aujourd'hui, donc un an après, le bilan de cette bibliothèque, donc tous les fonds ont été sauvés et l'ambassade de France a fait construire un préfabriqué pour pouvoir les stocker et réouvrir la bibliothèque. Un autre exemple, c'est les archives du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères s'est complètement aplati, et les archives étaient comme ça au vent jusqu'à ce que les bulldozers arrivent pour raser le bâtiment. Et là, toute l'équipe des archives s'est opposée en fait aux bulldozers, les a arrêtés en disant il faut d'abord qu'on sauve tous ces documents, ces 200 ans d'histoire d'Haïti. C'est quand même un patrimoine extrêmement précieux, les archives du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, ils ont réussi à rentrer tous les documents dans le bâtiment qui est attenant. Et donc, vous voyez, le bâtiment était relativement petit, mais vous voyez la quantité de documents qui ont été rentrés. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Comment ça fonctionne, cette histoire ?
De ce côté ? D'accord, donc c'est à partir des années 70, enfin jusqu'aux années 60.
Jusqu'aux années 70.
D'accord. Donc tout ça, c'est des choses qui restent à trier.
Si.
Là, ici, c'est quoi ? C'est des...
Là, c'est dans une salle où on met des passeports diplomatiques, des documents pour le courrier,
des passeports...
Qui plante un petit peu. C'était pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Vous imaginez un peu le boulot, parce que c'était des 200 ans donc, d'archives historiques qu'il a fallu reclasser, retrier. Un enfer total. Hein, pour. Alors, on a quand même réussi à leur envoyer pas mal de matériel et de rayonnage pour pouvoir reclasser tout ça, et on a réussi au début de l'année 2011 à réouvrir donc le fonds d'archives et également une bibliothèque de droit international et de diplomatie à l'intérieur du centre. Un autre exemple, la Bibliothèque nationale. Alors la BN n'a pas été démolie, détruite, elle est restée debout, mais vous voyez qu'à l'intérieur du bâtiment, quand même, il y a eu de sérieux dégâts, avec les rayonnages qui sont tombés comme ça, comme des dominos les uns sur les autres. Donc il y a eu tout un travail de sortir les collections, les mettre en carton pour les stocker, et ensuite pendant toute l'année il y a eu un gros travail de dépoussiérage, parce qu'il fallait voir qu'à Port-au-Prince il y avait une couche de 1 cm, 1,5 cm de poussière partout dans les bibliothèques, sur les livres, etc. C'était absolument délirant pour les bibliothécaires le boulot qu'il a fallu abattre. Alors de la même façon, on a réussi à apporter des compactus à Port-au-Prince et un certain nombre de rayonnages pour permettre la réouverture de la Bibliothèque nationale. Un autre exemple qui est l'Institut Aimé Césaire, donc l'Agence financière de la francophonie. C'est un bâtiment qui avait à peine un an, qui venait d'être inauguré, qui était censé être antisismique, et de la même façon, là, la bibliothèque a été complètement détruite. Enfin, tout le bâtiment. Et là, vous avez l'exemple de l'École normale supérieure, qui est un exemple assez intéressant, parce que le bâtiment, là, pour le coup, c'est le rez-de-chaussée qui a été soufflé, et le bâtiment s'est tombé sur le rez-de-chaussée. Donc, vous avez l'impression que le bâtiment est normal, mais en fait, il manque un étage. Et la bibliothèque se retrouvait sous les gravats, et les étudiants, les professeurs, les bibliothécaires sont mobilisés pour sortir les livres. Et quand on est arrivé, nous, un mois après le séisme, les 18 000 livres, hein, c'est ça, quelque chose comme ça, qu'il y avait à l'École normale supérieure, avaient été sortis et étaient en carton. Donc, faut voir aussi cette mobilisation pour sauvegarder ces collections. Et donc ça, c'est une dernière photo de la bibliothèque qui est en face de la Bibliothèque nationale, Saint-Louis de Gonzague, qui est également un séminaire et qui est une autre bibliothèque patrimoniale. Alors la Tunisie, on change complètement de côté. J'ai moins de photos, donc la Révolution, vous en avez également entendu parler. La Tunisie, on commence, nous, à travailler avec la Direction nationale du livre tunisienne. Il y a beaucoup de bibliothèques, en fait, qui ont été brûlées. Alors, surtout, les récents rapports, en fait, de situation parlent des régions de l'Ariana, de Benarous, de Béja, de Nabeul, de Bizerté, de Kairouan, de Kasserine, de Tozeur. On compte une quinzaine de bibliothèques. Au total, on compte plus de 52 000 documents et livres en arabe détruits et près de 10 000 en langue française. Près de la moitié de ces fonds étaient des fonds jeunesse. Et donc, je disais tout à l'heure, nombreux dommages sur les bibliothèques universitaires, mais on n'a pas de bilan chiffré à ce jour. En fait, les bâtiments ont été touchés, mais en fait très vite repris en main parce qu'il fallait un coup de peinture, choses comme ça. C'était moins, je dirais, moins grave pour les infrastructures qu'à Port-au-Prince, mais pour les livres, ça a été nettement plus embêtant parce que là, les livres ont brûlé. Parce que réellement, on allait mettre le feu à ces bibliothèques, alors que finalement, des livres sous les gravats, ça tient à peu près le choc tant qu'il pleut pas trop dessus. Donc là, le premier besoin pour les Tunisiens, c'est de reconstituer les collections. Contrairement, en fait, la vraie question qui se pose, c'est, et qui va se poser pour la reconstruction et la réouverture, c'est qui a brûlé ces bibliothèques et pour quelles raisons. Et on revient avec la question que je posais tout à l'heure de qui et avec qui reconstruire ces bibliothèques. Alors, en fait, la situation n'est pas claire. Il se trouve qu'il y a des partisans de Ben Ali qui ont participé à cette politique de terre brûlée et de scénographie du chaos, quelque part, pour mettre le bazar et faire tomber la révolution. Et donc, ils ont mis le feu à un certain nombre comme ça d'institutions. Mais il y a aussi des révolutionnaires, pendant la révolution, qui ont attaqué les bibliothèques comme symbole du pouvoir. Donc, c'est pas tranché, c'est pas tout blanc, tout noir. Donc chaque bibliothèque a sa propre histoire, mais ça pose cette question justement de savoir comment on va travailler sur chaque bibliothèque à la réappropriation par les populations locales de l'outil bibliothèque. Alors, je crois que je parle beaucoup, je parle un peu trop longtemps, il faut que j'accélère. Simplement, sur l'idée de reconstruire. Je dirais il y a trois points importants. Il y a la question des infrastructures, il y a la question des collections, évidemment, et il y a une question qui reste en suspens, qui est la question des ressources humaines et de cette appropriation dont je parlais tout à l'heure. Alors les infrastructures, c'est évidemment le plus coûteux, le plus complexe, ça pose la question de la temporalité, évidemment, reconstruire c'est long, ça prend du temps. Alors, pour vous donner un petit exemple, et je vais passer rapidement dessus, on pourra en discuter et revenir tout à l'heure dessus, mais Bibliothèques sans frontières a conçu ses programmes à Haïti à la fois dans une problématique d'urgence, de moyen terme et de long terme. Dans les camps d'abord, dans les camps déplacés, parce qu'il y a beaucoup de populations qui ont été déplacées, qui n'ont plus accès du tout à aux infrastructures culturelles, éducatives qui pouvaient exister auparavant. Donc on a un important programme de bibliothèques dans les camps. Une photo qui illustre ça. Mais on a également un programme assez important avec l'Université d'État d'Haïti. Je pense qu'Anne-Marie pourra en dire un mot tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'aller vers la construction d'une bibliothèque universitaire centrale. Et une bibliothèque universitaire centrale, il faut quand même quelques bonnes années avant de la faire sortir de terre. Il y a évidemment une problématique autour qui circule, des ressources humaines, des collections, de la formation, etc. Donc l'idée avec l'Université d'Haïti, très vite après le séisme, c'était de dire on va monter une bibliothèque numérique universitaire, parce que ça, c'est quelque chose qui est relativement rapide à faire, qui permet d'accéder à un très très grand nombre de ressources, tant qu'il y a de la formation et de la sensibilisation des étudiants pour aller les chercher, et qui, je dirais, a cet aspect, en plus de ça, de travail sur les nouvelles technologies et de réduction de la fracture numérique. Donc la bibliothèque numérique universitaire de l'Université d'État d'Haïti est sortie de terre, elle va ouvrir ses portes dans quelques semaines maintenant, elle a pris un petit peu de retard à cause de différentes problématiques politiques, etc., mais disons que ça, c'est la première réponse. Il y a une réponse qui s'établit sur le plus long terme et qui a démarré aujourd'hui, qui est la construction de cette BU centrale. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'envergure internationale qui porte aussi, je dirais, la politique universitaire d'Haïti. Alors ce programme, il est monté à la fois en France et à Port-au-Prince. Alors, il y a un gros travail à Port-au-Prince avec les bibliothécaires, mais également avec des acteurs institutionnels, etc., pour justement programmer ce bâtiment. Mais il y a aussi un travail en France, parce qu'on accueille effectivement depuis mars les 4 premiers bibliothécaires de l'Université d'État d'Haïti, 5 premières de l'UH à venir en France. Ils seront 20 au total sur une période de 2 ans à venir suivre des formations, mais également à venir travailler au sein des collections de l'École normale supérieure et peut-être d'autres bibliothèques universitaires pour venir récupérer des collections et venir choisir les collections qui les intéressent. Alors donc du coup on arrive forcément à cette question des collections et la question Là, vous voyez, en fait, ça, c'est les rayonnages de la Bibliothèque nationale qui ont été remplacés. Et ça, c'est les rayonnages de la Bibliothèque de l'Ariane en Tunisie. La problématique des collections, elle se pose forcément. Les différences sont importantes entre le cas tunisien et le cas haïtien. Je disais tout à l'heure qu'elles ont souvent été sécurisées à Port-au-Prince, alors qu'en Tunisie, elles ont très souvent brûlé. Mais il y a partout ce même besoin de renforcement, de renouvellement et de remplacement des collections, surtout dans des contextes de pays où le maillage de bibliothèques est très faible à la base, des pays qui sont dans des situations de pauvreté. Par ailleurs, dans les deux cas, finalement, la question de la politique documentaire est en résonance avec la redéfinition du champ politico-social à travers le pays. Alors, c'est évidemment plus prégnant en Tunisie, où il y a un vrai changement radical de paradigme, de modèle politique, avec la fin de la censure, l'ouverture des bibliothèques sur le monde. À Haïti, c'est un petit peu différent. On a une rupture qui est évidemment moins importante, mais quand même, il y a eu une idée comme ça récurrente. Alors, peut-être, Marie, tu pourras rebondir aussi là-dessus tout à l'heure, mais de tabula rasa, vous savez, on remet tout à plat, on recommence. Les médias internationaux titrent Haïti année zéro. Je ne pense pas qu'on en soit du tout dans cette optique-là, mais il y a évidemment la question d'un choc, d'une rupture historique qui se pose, et de cette catastrophe, il faut se relever, il faut repartir. Donc, il y a de toute façon une nécessité profonde de développer le capital humain, de former l'élite qui demain reconstruira le pays. Donc toutes ces problématiques-là se posent. Alors, dans ce cadre-là, les programmes de dons de livres peuvent être extrêmement intéressants lorsqu'ils sont menés de manière intelligente, en partenariat avec les bibliothécaires sur place. C'est une solution qui est collaborative, qui est relativement peu coûteuse, moins chère en tout cas que d'acheter des livres, et qui peut être rapide pour apporter des ressources nouvelles et répondre à l'urgence de la situation. Pour vous donner un exemple, nous on travaille beaucoup avec les universités haïtiennes aujourd'hui à la constitution de bibliothèques de référence de 300-400 livres qui sont choisis par les bibliothécaires directement pour constituer, si vous voulez, des petites bibliothèques comme ça, accessibles, même dans les endroits où c'est détruit, pour avoir des ressources documentaires en accès direct. Mais dans le même temps, il y a une nécessité de laisser du temps, une respiration, je dirais un recul nécessaire pour construire une nouvelle politique documentaire en fonction des nouveaux schémas en jeu. Une rupture profonde comme celle qui a été opérée ce printemps en Tunisie, elle met du temps à être digérée et à porter ses fruits, évidemment. Je vais finir très rapidement sur les ressources humaines, et je m'en arrêterai là, parce que reconstruire, et je pense que c'est quelque chose qui est finalement le plus important, reconstruire, c'est aussi poser la question de l'humain. Parce que si les bâtiments sont détruits, comment sont les êtres humains? Est-ce qu'ils sont eux debout? Est-ce qu'ils peuvent encore faire leur métier? Dans quelles conditions? De quelle façon? Si les règles ont changé, les décideurs et les opérateurs sont-ils les mêmes? Faut-il réformer en profondeur ou simplement renforcer les conséquences? Alors donc il y a toutes ces questions-là qui se posent. Alors en plus avec un problème récurrent à Haïti qui est celle de la fuite des cerveaux et la question justement du faible nombre de personnes réellement formées et qui ont par exemple des diplômes de conservateurs. Je crois qu'il y en a moins d'une dizaine de personnes qui ont réellement un diplôme de conservateur de bibliothèque à Haïti. Alors, il y a toutes ces questions-là qui se posent parce que reconstruire une bibliothèque, c'est bien beau, mais il faut savoir ce qu'on va en faire. Finalement, reconstruire, c'est toujours avoir en tête, je dirais, la question du pourquoi et du pour qui, pour quelles raisons cette bibliothèque doit être construite, pour quels usages et quels usagers. La question est forcément plus forte dans le cadre, plus forte que dans un cadre de projet initial de construction. On voit en Haïti comme en Tunisie les changements profonds qui s'opèrent dans les sociétés, des changements sociaux, des changements démographiques avec ces déplacements de population, des changements politiques. Et tous ces changements, ils remettent en question finalement beaucoup de choses sur les bibliothèques, les sites d'implantation, la vocation des structures, la politique documentaire, etc. Je m'arrêterai là et je laisse évidemment le débat ouvert pour la suite.
Merci. Anne-Marie, vous pouvez peut-être enchaîner directement avec l'exemple haïtien plus précisément.
Oui. Il ne me reste pas grand-chose à dire. J'ai mis un plus haïtien que moi, il a tout dit. Il montre des choses que je n'avais pas vues. Parce que, en fait, immédiatement après les séismes, personne ne pouvait... Donc, c'était pas... On n'avait pas le moral à cela, quoi. Et je peux vous dire, j'étais là. J'étais en Haïti à l'époque. J'étais sur mon lieu de travail, donc je travaille à l'Université d'État d'Haïti, de la faculté des sciences humaines. Donc je suis la responsable de la bibliothèque. Donc comme Jérémy n'a pas vraiment présenté l'Université d'État d'Haïti, je peux vous en parler. C'est une petite structure qui comporte 11 entités. Et, c'est des facultés qui sont éparpillées. On n'a pas de campus universitaire. Mais par contre, chaque faculté a sa propre bibliothèque. Et qui se, et à travers la capitale. Les facultés sont dirigées par un conseil de trois membres et l'ensemble des coordonnateurs des facultés forment le conseil de l'université. Donc, ces petites bibliothèques de proximité dont je parlais avaient déjà du mal à répondre à leur mission parce qu'on n'avait pas les moyens adéquats. Quoi. Mais après le séisme, la grande majorité de ces bâtiments sont devenus inutilisables. Vous avez vu, Jérémy vous a montré, il y en a qui se sont effondrés. Donc ça, c'est l'image du Palais National qu'il a montré. Donc c'est Haïti a été vraiment attaqué dans toute sa structure. Donc du coup, il n'y avait plus de salle de cours. Il n'y avait plus de bibliothèque, de laboratoire. Donc on était livrés à nous-mêmes. Donc lorsque c'est arrivé, j'étais sur place, j'avais les clés de la bibliothèque en main que je venais de fermer. En pensant que j'avais tout sécurisé pour partir, quoi. Et je devais retourner pour regarder que les mines se fendaient. Heureusement que les étudiants, donc ça, je peux souligner partout, c'est à cause de la vigilance des étudiants, parce que la grande majorité habite aux environs, quoi, de la faculté. Ils sont rentrés chez eux ce soir-là. Il n'y avait plus de maison, de plus qu'on devait trouver un endroit sécurisant ou un espace libre. La faculté des sciences humaines, il y a une très grande cour. Ils sont retournés pour s'abriter. À ce moment-là, ce sont eux qui sont érigés comme gardiens quoi, pour notre bibliothèque pendant plus de mois. Parce que le personnel, les responsables, personne ne pouvait venir faire quoi que ce soit pour sauver les livres. Donc les étudiants sont restés là. Donc ils ont mis un cordon de sécurité. Personne ne pouvait rentrer jusqu'à ce que les responsables, du moins les ayants droit, peuvent venir. Déménager et les documents. Donc, en fait, jusqu'à présent, on est à un stade où les documents de la bibliothèque de la Faculté des sciences humaines, c'est l'exemple que j'ai, sont entreposés dans un petit bâtiment, tu n'as pas été voir, c'est un petit bâtiment qui servait dans le temps de cafétéria. Et maintenant, on est en train de construire une structure provisoire, on n'a pas encore emménagé là-dedans. Mais par contre, les cours ont repris et ceci partout. Donc la vie universitaire a repris en Haïti près de deux mois après le séisme, quoi. Donc la vie universitaire a repris. Quoi d'autre que je peux... Jérémy a tellement enchaîné. Oui, il m'a pris mes mots, il a pris tout ce que j'ai écrit. Oui, justement, quoi... Maintenant, on parle de reconstruction, parce qu'il a parlé de tout ça. On a compris comment c'est la destruction, comment ça s'est passé. Et on parle de reconstruction. Reconstruire la bibliothèque. Est-ce qu'on va reconstruire les petites structures comme c'était? Est-ce que... Le gros projet maintenant, c'est construire une bibliothèque centrale, mais ça, c'est un gros projet vraiment à long terme. Donc, les discussions, il faut également se pencher sur les petites structures. Parce que sinon, les étudiants, ils vont rester comme ça, donc jusqu'à ce que la grande structure soit là. Donc, en attendant ce grand chantier, il faut investir dans le logistique, il faut investir dans la formation du personnel des bibliothèques, ce qui est en train d'être fait, donc de ma présence ici. J'ai un chapeau pour la Bibliothèque Sans Frontières qui nous accompagne en ce sens. Mais aussi, il faut structurer les petites structures qui sont là. Donc, le matériel informatique qu'on n'a pas, parce qu'on a perdu tous nos matériels, on a perdu les rayons, tout ça, le système d'antivol. Donc, en fait, il nous manque beaucoup de choses. Donc, j'essaie de trouver ce que Jérémy n'a pas dit dans son... Il ne va pas être trop long. Peut-être avec les questions, je trouverai beaucoup plus de choses qu'il n'a pas dit parce que...
Peut-être parlons un petit peu de questions de politique documentaire, parce que c'est quelque chose
d'intéressant. La politique documentaire, c'est un petit peu plus compliqué, je préfère ne pas entrer là-dedans. Oui, je préfère ne pas entrer là-dedans. Mais en fait, avec vos questions, peut-être que vous allez vouloir savoir ce comment ça s'est pour vos questions, quoi, et on va. Oui, je préfère.
Mm-hmm. Bon, on garde tous nos questions pour,
oui.
pour après Béatrice Gaillard. Donc, je vous laisse la parole.
Merci. Bonjour. Oui, moi je vais revenir sur un cas très concret d'un don que nous avons fait au Rwanda de 4000 ouvrages en 2010. Donc on n'est pas du tout dans le contexte de destruction-reconstruction. Hein, il s'agit d'un don à une petite université dans une région totalement agricole du Rwanda, à Kibungo. Donc une petite université qui a été créée en 2003, qui n'a aucun moyen, ou très très peu de moyens financiers. Il y a environ 800 étudiants et 30 postes informatiques à l'heure actuelle, hein, pour vous donner une idée. Cette université n'avait pratiquement pas d'ouvrage, il n'y a pas de réseau de distribution, de fournisseurs, de réseau économique qui permet d'acheter des livres, et encore moins de capital. Donc nous avons été contactés en 2009, au printemps 2009, par un ingénieur chimiste rwandais qui avait fait ses études en France, qui est actuellement enseignant à l'école, donc là je prends mes antisèches, hein, EICD3A, qui est l'école de commerce et de développement basée à Lyon, et qui est donc plusieurs mois par an également enseignant au Rwanda dans cette petite université. Il nous a contactés donc au printemps 2009, il avait déjà auparavant contacté un certain nombre d'écoles scientifiques, il avait contacté CPE, qui est l'école de chimie qui se trouve sur le campus de la Doua. Il avait contacté l'ECAM, donc l'école des arts et métiers, l'INSA de Lyon, Chronique sociale, et puis pour finir il s'est tourné vers nous. Ce qui au départ devait être un don de quelques centaines d'ouvrages, hein, c'est ce qu'il avait prévu. Quand il s'est tourné vers nous, heureuse coïncidence, nous étions en pleine réhabilitation à ce moment-là de la bibliothèque universitaire de la Doua, qui se trouve à quelques enclavures d'ici, hein, vous connaissez peut-être. On était en période de réhabilitation, en période de travaux, et nous étions donc justement en train de trier les collections qui devaient être choisies pour remonter dans les pôles scientifiques de la future bibliothèque rénovée. On avait donc un désherbage énorme en cours, parce que le désherbage n'avait pas été fait pour X raisons depuis des années. Et donc nous étions en train de désherber toutes les collections scientifiques de niveau licence et master de la BU Sciences. Donc effectivement c'était un effet d'aubaine extraordinaire, hein, parce que très vite quand il nous a contactés, on était déjà à 3000 ouvrages que nous avions sélectionnés pour le désherbage. Donc 3000 ouvrages plus les, ceux de l'INSA, de l'ECAM, ça devenait... Donc Jean-Baptiste Mubumbi, que je cite maintenant, qui est à l'origine donc, de cette opération, ça devenait quelque chose qui le dépassait. Et c'est vrai que l'opération a duré plus d'un an pour que les ouvrages arrivent au Rwanda, parce que effectivement, on s'est heurté à d'énormes problèmes. Nous, on a totalement improvisé, on n'était pas du tout non plus préparé à l'ampleur du don. Donc les ouvrages qui devaient partir en juillet 2009, hein, puisqu'il nous a contactés au printemps, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple, que son association à Jean-Baptiste, que je cite ici, qui s'appelle KDES, Sectalis Développement par l'éducation et l'économie solidaire pour le Rwanda, devait en fait trouver des fonds, puisque le transport de plus de 4000 ouvrages dépassait complètement son budget. Donc il est reparti au Rwanda avec son bâton de pèlerin pour essayer de trouver des fonds. Il est revenu en septembre 2009 en nous disant cette fois-ci, ça y est, on va pouvoir faire partir les ouvrages pour le Rwanda. Mais là aussi, c'était beaucoup plus compliqué que ça en fait. Parce qu'il fallait que, comme il n'avait pas suffisamment de fonds, il fallait que ce soit nous-mêmes, hein, nous avons été obligés nous-mêmes de conditionner tous les ouvrages. C'est-à-dire qu'il y avait 4000 ouvrages qu'il fallait mettre dans des cartons, tous de même taille. Donc vous imaginez bien que nous, en période de réhabilitation, au moment où on devait déménager les collections pour ouvrir la nouvelle bibliothèque, pour motiver les équipes de bibliothécaires et de magasiniers, ça a été extrêmement difficile. Et ça nous a pris beaucoup plus de temps. Donc on a passé l'ouverture de la bibliothèque en octobre. Les ouvrages étaient toujours stockés. On a réussi à trouver des cartons, de la bonne volonté, parmi le personnel, parce que donc Jean-Baptiste n'avait absolument personne sur place pour nous aider. Donc ça a vraiment été le personnel de la bibliothèque qui a pris les choses en main et qui a fait en sorte qu'on puisse conditionner tous ces ouvrages pour que le transporteur vienne les prendre et puis qu'on fasse les choses dans les règles avec une facture pro forma, une estimation du prix des livres, une liste qu'il a fallu faire signer, de dons bien sûr, qu'il a fallu faire signer par le président de l'université, pour que enfin, en janvier 2010, on puisse prévoir une date pour le départ des ouvrages. Donc le départ des ouvrages s'est effectué en février 2010, et ils sont arrivés au Rwanda en juin. Donc ils sont déjà d'abord partis au Havre, ensuite ils ont pris le bateau jusqu'en Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud, ils ont suivi un périple jusqu'à Kibungo, où ils sont arrivés. Alors, on s'était posé des questions aussi avec quand on nous a demandé, mais on veut tous les livres, Jean-Baptiste nous avait dit, on veut absolument tous les livres. Nous, on s'était posé la question, mais on a quand même des réflexes bibliothéconomiques qui nous disent, voilà, ce sont des collections scientifiques, elles ont plus de 10 ans, donc forcément, elles sont obsolètes. On a des règles bien précises. Et sa réaction, c'était, c'est totalement sans objet, vos règles bibliothéconomiques. Nous n'avons rien, absolument rien. Nous n'avons aucun moyen. Donc, il nous faut ces ouvrages, tant pis, on fera le tri sur place. Et puis, ce qui était effectivement positif aussi, c'est que finalement, ces 4000 ouvrages constituaient vraiment un fond d'une petite annexe de bibliothèque comme on peut avoir, nous, ici, par exemple, à Gerland, on a une annexe de bibliothèque relativement cohérente, puisqu'il y avait toutes les disciplines représentées. Des mathématiques à la chimie, en passant par la biologie, les sciences de la Terre. Donc finalement, il y avait un petit fond cohérent, même si pour nous, il était relativement obsolète, hein, puisque forcément, on donnait des ouvrages qu'on ne voulait pas faire remonter dans nos pôles scientifiques, puisque nous voulions offrir, nous, à nos étudiants, une documentation bien évidemment récente dans une bibliothèque rénovée. Voilà, donc les ouvrages sont bien arrivés à Kibungo, après tout ce périple. Et là, la question qui se pose maintenant, puisqu'ils sont stockés, hein, je dis stockés sciemment, parce qu'on ne peut pas encore parler de bibliothèque, ils sont stockés, ils ne sont pas encore rangés, et leur gros problème maintenant, c'est d'avoir du personnel sur place qui soit formé pour pouvoir avoir une bibliothèque digne de ce nom, faire circuler les documents, pouvoir signaler ces documents. Et donc là, je me tourne vers Raphaël, hein, et donc il voudrait envoyer un stagiaire à l'ENSIB pour qu'il soit formé et que cette bibliothèque, qui maintenant est une bibliothèque de référence au Rwanda, il y a 5000 documents en tout, c'est une des plus grosses bibliothèques scientifiques du Rwanda. Pour vous donner une échelle, hein, nous, à la BU Science, on a 150 000 ouvrages. Voilà. Donc là, cette bibliothèque de 5-6 000 ouvrages est la bibliothèque de référence actuellement, ou presque, au Rwanda. J'avais quelques photos juste pour le happy end de l'arrivée. Je ne sais pas si... Sur celui-là ? Oui, sur celui-là. Non, elles sont sur ma clé. Ouais. Alors... Donc, j'avais posé la question d'ailleurs donc à Jean-Baptiste donc de cette association KDES pour savoir s'il connaissait Bibliothèque sans frontières, et apparemment il ne connaissait pas. Et actuellement on a des étudiants, anciens étudiants de l'ENSIB, de Master ENSIB, qui sont de la République démocratique du Congo, qui ont monté une association qui s'appelle Afrique Doc, et qui tiennent le même discours, c'est-à-dire qui, quand on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on trie les collections avant de vous les donner, est-ce que vous voulez faire un choix sur place, ils nous disent, vous nous donnez tout, absolument tout, et eux, comme ils sont formés, donc sur place, c'est eux qui redispatchent les collections, soit vers la lecture publique, soit vers les collections universitaires. Mais bon, c'est visiblement en train de bouger, en tout cas en Afrique. Voilà, donc je ne sais pas si... J'avais demandé à Jérémy s'il connaissait Afrique Doc, apparemment non. Mais Donc l'arrivée des cartons donc, qui ont été vidés dans ce qu'ils appellent le bookstore, qui est la bibliothèque. Voilà, donc ça, ce sont nos ouvrages, vous voyez, ne sont pas très de première fraîcheur, hein, mais nos ouvrages scientifiques qui ne sont pas classés, puisque vous voyez, hein, on a de la physique qui côtoie de la biochimie, mais qui sont déjà au moins en rayon, hein, et qui sont accessibles. Voilà, donc c'est le stockage des ouvrages dans cette petite université. Mais absolument. Dans l'université de Kibungo. Voilà, le bookstore.